cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast Rencontre Cobuzz où nous avons le plaisir ce matin, ce soir, cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, d'accueillir Albin Delatour. Qui est Albin Delatour ? Albin Delatour est le très dynamique animateur du festival Mille Une Notes. Mille Une Notes en Limousin. Bonjour Albin.
Bonjour Yves.
Pourquoi Mille Une Notes ?
Parce qu'en Limousin, nous avons le plateau des 1000 vaches.
Vous êtes Limougeot, vous-même ?
Oui, moi je suis originaire du Limousin au Chalard, qui est une petite commune vraiment au milieu du Limousin. Et le nom 1000 et une note est inspiré de deux choses. C'est le plateau des 1000 vaches, qui est le point culminant du Limousin et qui est à la lisière des trois départements du Limousin. Et vache, ça veut dire source. Et je trouvais ça joli justement de se dire que tout découlait de ce plateau. Et ensuite, forcément, une petite référence au conte des Mille et une nuits, parce que chaque année, nous avons l'envie de raconter une histoire.
Voilà. Alors, c'est un festival qui me semble préfigurer un nouveau genre, qui est un festival très éditorialisé. D'abord, depuis combien de temps ce festival existe-t-il ?
Alors, le festival Mille et une nuits, il a été créé en 2009. Suite au rapprochement de plusieurs festivals du Limousin, on a décidé de se rassembler pour faire un festival important et faire un festival où tout devienne possible.
Et les festivals existants précédemment sont toujours dans l'aventure ou vous les avez carrément rachetés ?
Oh non, on s'est rassemblés. En fait, on en avait créé un qui était les Estivales du Chalard qu'on a rassemblé avec l'été musical de Saint-Léonard de Nobla, qui est un des plus vieux festivals presque français, là, qui a 45 ans.
Alors du point de vue musical, quelle est votre ambition, quelle est votre mission ?
La mission qu'on se fixe tous, c'est, je pense que ça s'entend, mais on est jeunes, on est une équipe de jeunes. Et l'ambition de ce festival et notre association qui porte le festival, c'est Opus 87, c'est essayer de décloisonner, de populariser la musique classique. C'est vraiment, on a une envie, c'est de se dire que la musique classique, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Et c'est vraiment tous nos efforts, toute notre énergie, c'est de faire venir un nouveau public à la musique classique.
Quel est le financement de ce festival ? Comment êtes-vous organisé ? D'abord, est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles pour le faire vivre ou c'est un...
Oui, vraiment. En fait, le festival aussi, ça repose sur la convivialité. On a à peu près une cinquantaine de bénévoles pendant tout le festival. Et puis après, pour les financements, on est arrivé malheureusement après l'âge d'or de la culture qui était les années 80. Du coup, on se débrouille
Vous aussi, vous êtes un nostalgique des années Mitterrand, donc.
les 30 ans, là. Et malheureusement, nous, on n'a pas connu les bienfaits des années Mitterrand. Et du coup, on doit se débrouiller par nous-mêmes et surtout aller chercher des financements à peu près partout. Du coup, ce qui est bien, c'est que le principal financement du festival, c'est la billetterie. Ensuite, nous avons...
Quel est le pourcentage de votre autofinancement ?
On arrive à 60% pour le festival.
Et là, vous ne regrettez pas, par exemple, vous pourriez vous dire oh, si j'avais davantage de subventions publiques, je pourrais peut-être me risquer des choses. Cette balance entre l'équilibre de l'autofinancement et du financement public, est-ce que vous avez l'impression que ça vous empêche de faire des choses ?
Je ne devrais pas dire ça, mais de l'autre côté, c'est aussi la liberté. On se dit que justement, notre but, c'est de populariser la musique classique. Du coup, on n'a pas de parachute. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être là où le public, d'essayer de faire des concerts qui plaisent. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est bien et qui dans le festival, c'est que tous nos concerts s'autofinancent par la billetterie. Ce qui veut dire, je pense, que les concerts plaisent.
Alors, comment avez-vous construit le programme de cette année et quels en sont les temps forts ?
Alors déjà, toute l'ambition du festival, je vous ai dit, c'est populariser, décloisonner la musique classique. Et puis chaque année, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de raconter une histoire. Et moi, il y a une personne qui m'inspire énormément dans la musique, c'est Franz Liszt. Pour moi, c'est le
mode. Ça tombe bien.
Ça tombe bien. Mais vraiment.
Vraiment, vous avez une passion depuis longtemps pour Franz Liszt.
Oui, moi, c'était en lisant Ma vie est un roman.
Est-ce que vous. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous savez si Liszt a joué en Limousin ?
Bah justement, je crois que le seul voyage qu'il n'a pas fait, parce qu'il a vraiment parcouru toute l'Europe, c'est peut-être en Limousin.
Vous savez qu'il y a un livre qui est paru sur les voyages, sur les concerts de Franz Liszt en France ?
Oui, tout à fait. Et justement, je crois que c'est vraiment le seul voyage qu'il n'a pas fait. Et c'est peut-être justement l'occasion de lui rendre hommage cet été. Et ce sera un voyage. Ce qu'on voulait faire, ce n'était pas forcément présenter toute sa musique, parce qu'il y a plein de structures qui le font bien. Nous, c'était plutôt essayer, à travers chaque concert, de raconter une histoire de sa vie.
On peut dire que c'est un feuilleton Liszt, votre festival, cette année ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est un feuilleton Liszt. On parlera de son enfance. En fait, les passages moi, qui m'ont marqué chez Liszt, c'est forcément son enfance d'enfant prodige. Ensuite, c'est son passage où il a été quand même dans toutes les salles de concert en Europe. C'est le Liszt interprète qui est vraiment intéressant. C'est le Liszt créatif, c'est quand même celui qui a inventé le récital de piano. C'est le Liszt qui est courageux et qui, avec son javelot et son leitmotiv de la musique de l'avenir, moi je trouve ça superbe. C'est lui qui est vraiment un artiste généreux, un des premiers justement qui faisait des récitals de lui-même et surtout des récitals de Wagner.
Alors, jouer le Liszt, il faut des pianistes
costauds.
Alors, qui avez-vous invité cette année ?
Alors, un pianiste costaud, justement, on a essayé d'inventer. Vraiment, comme je vous ai dit, Liszt, c'est un personnage très, très complet. Du coup, on a essayé d'inviter tous les panoramas pianistiques possibles. Du coup, on aura des pianistes classiques, avec par exemple Liszt de la Salle, Alexandre Tarot, des pianistes jazz, avec on a essayé de recréer une soirée, les soirées qui se passaient à Nohant, vous savez, où il y avait Liszt et Chopin qui se faisaient une guéguerre pianistique. Et on l'a créé avec Baptiste Trottignon et un jeune pianiste de jazz, Paul Lay, qui recréeront un petit peu une atmosphère de ce qui se faisait à Nohant, où ils joueront la musique, ils partiront de Chopin et de Liszt, ils joueront de leur musique, et après ils partiront en interprétation.
Alors tous les pianistes qui jouent au festival cette année jouent du Liszt ?
Jouent du Liszt ou justement un passage de la vie de Liszt. Parce qu'on pourra parler justement, c'est le moment de passer des influences de Liszt ou des chapitres.
Alors, je vois que le concert d'ouverture est confié à un artiste qui s'appelle Chili Gonzalez, qui n'est pas, je crois, un artiste de musique classique.
Bah, si, il a quand même un passé. Il a un lourd passif classique. Il avait fait. C'est un pianiste. Je ne sais pas comment l'appeler, parce que justement, le titre de son concert s'appelle The Undespicable Gonzalez. Ça porte bien son nom. Et il avait une formation totalement classique au Canada, où il a même fait une masterclass avec Glenn Gould. Et c'était pour parler un petit peu du passage de Liszt compositeur et Liszt superstar.
Ça va être quoi ce spectacle ?
Bah, ça va être déjà, c'est très très dur à raconter, parce que Gonzalez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est je vous ai dit, un pianiste d'origine classique. Ensuite, il a été en Allemagne, où il s'est autoproclamé pop, de la pop underground. Ensuite, il a fait énormément d'arrangements, par exemple pour Beck, pour Ariel Lombal. Il a fait du rap, plusieurs albums de rap. Il a même, il y a 3 ans, là, quelque chose qui est assez connu, il a fait le concert le plus long qui est rentré dans le Guinness, où il a joué pendant 27 heures d'affilée. Il a également, l'année dernière, produit un film où il est derrière, devant, partout autour des caméras. Et cette année, en fait, il fera un concert assez fou, et en s'inspirant de ses maîtres classiques, c'est Prokofiev, c'est Philippe Glass, c'est Bartok, avec un orchestre de chambre classique, et lui au piano et à la voix.
I used to think the labels were pimps, but then the ship started to sink. Then the shit started to stink, and they went limp. I learned some new tricks, learned some new tricks. Churned out music, super produced it. Now I'm footloose, fancy free. Private dancer, don't dance for me. Can't you see, I sell fantasy. That's what bonds my fans to me. They laugh at the insanity, thanks to me. But if I don't sell tickets, I'm cancelling. The other entertainers are incompetent. They wanna sound hard like consonants, but it's all false confidence. The audience is dominant. Now it's obvious I'm autonomous. I can smoke weed reading The Economist. My father is the one who taught me all of this. I told you I'm a different kind of bottom bitch. I'm at your service, you seem nervous. Relax, you deserve it. Here's a melody to lubricate your tear ducts. You're about to be ear fucked. Simple, really, it's not rocket science. I am the product, you are the client. You are the housewife, I'm the appliance. You're so demanding, so I'm supplying. I'm good at it, became an addict. I'm making music, making money, making magic. It doesn't have to be tragic. It takes practice, now it's automatic. Hardcore, hardcore. 27 hours, do you want more? It's gonna be a long war. You're done for fucking with the wrong whore. I'm a different kind of prostitute.
Alors, je vois ensuite un concert de l'ensemble baroque de Limoges. Alors là, c'est un peu en voisin, parce que là, il n'y aura pas du Liszt.
Il n'y a pas de Liszt, mais il y a quand même le passif italien et le passif de Bach de Liszt. Et tous les ans, en fait, on aura la chance, justement, l'ensemble baroque et nos voisins, on joue presque, quoi, on joue chez eux à Solignac. Et tous les ans, on a la chance de les inviter. Et cette année, ce sera un grand effectif pour les concertos brandebourgeois.
Voilà, donc ça, c'est pour le concert de l'ensemble baroque de Limoges. Du point de vue des lieux, parce que l'ensemble baroque de Limoges, bien sûr, est installé à La Borie, au centre culturel de rencontre de La Borie. Du point de vue des lieux, où se déroulent vos concerts?
Alors, en fait, Pour les lieux, c'est un petit peu comme le festival, la programmation du festival, on va de la musique médiévale jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Pour les lieux, c'est pareil, ça va des lieux, par exemple, on est dans une vieille abbaye du XIIe siècle des Augustiniennes qui est magnifique, jusqu'à un lieu qui a été construit par Jean Nouvel et qui sert de lieu de vente aux enchères de taureaux du Limousin. Et les lieux, on se déplace en fait autour de Limoges principalement, en allant faire même une expédition à Brive.
Alors, je vois que Jean-François Zigel va donner un concert, enfin, va présenter un concert, donner un concert.
Voilà, on voulait souligner le côté improvisateur de Liszt avec le plus grand improvisateur qu'on a en ce moment, c'est Jean-François Zigel.
Alors, le festival commence le 17 juillet, s'achève le 11 août. Quel est l'artiste qui est pour vous une découverte dans ce festival, qui est votre découverte, qui est votre coup de cœur?
Bon, il y en a plusieurs, il y a... Là, vraiment, le concert qu'on présente comme le coup de cœur, c'est le concert avec Natasha Kudryshkaya, une jeune pianiste, quoi, une pianiste ukrainienne bardée de grands diplômes, quoi, de grandes récompenses, et qui nous fera vraiment le privilège et le cadeau de nous faire un concert qu'on aime et je pense vraiment mémorable. Je pense que tous vous êtes invités à venir et vraiment, je vous promets que vous passerez un bon moment. Ce sera à l'abbaye du Chalard, un concert en plein air. Il faut s'imaginer, là, vous êtes dans une vieille abbaye au milieu de nulle part, sur un piton rocheux avec une vue à 300, quoi, vraiment à 280 degrés. C'est la nuit, là, il est 21h et Natacha commencera avec des pièces de Rameau qu'elle interprète à merveille, avec des pièces de Bartok, et on s'avancera dans le temps. On proposera des pièces de Satie, et on terminera avec Philippe Glass.
Quel est le public du festival? Parce qu'on n'est pas en Provence, on n'est pas dans le Vaucluse, on n'est pas sur la Côte d'Azur, On est en Limousin. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de vacanciers qui sont là ou est-ce que c'est un public local ?
Bah, c'est un public, bien sûr, et heureusement, les principaux bénéficiaires de ce festival, c'est le public limousin, et particulièrement de Limoges. Mais au fil des années, on arrive à faire venir un public de plus en plus loin. L'année dernière, on a même fait venir des Américains qui venaient spécialement pour des interprètes.
Et vous-même, Albin, qu'est-ce que vous faites de le restant de l'année lorsque vous ne vous occupez pas l'été, vous ne vous occupez pas l'été du festival Mille Une Notes ?
Bah vous savez déjà, le festival, ça prend un an, deux ans, trois ans. Par exemple, là, on est déjà en train de préparer. Là, on est au mois de mai et on est déjà en train de préparer l'édition de 2012 et 2013. Quoi, c'est déjà vraiment, on s'en rend pas compte forcément, mais c'est un travail assez prenant. Et puis après ça, on fait mille et une choses. C'est-à-dire qu'on a une association qui s'appelle Opus 87, dont le but, je vous rappelle, c'est essayer de décloisonner, de populariser la musique classique. Et on fait forcément le festival qui nous prend la majeure partie de notre temps. Avec notre partenaire qu'on a souligné tout à l'heure, la Fondation Laborie, on participe à une saison de piano avec quatre récitals de piano pendant l'année.
Que vous programmez donc à Laborie ?
À Laborie, oui. Et ensuite, on participe au projet Le Maître et l'Élève. C'est tous les ans, on demande à un artiste généreux qui prête sa notoriété, son expérience à de jeunes et on fait un disque et une tournée qui démarre au festival. Et également, parce que justement, on parlait du côté financement tout à l'heure, parce que on est dans une situation économique qui n'est pas les plus faciles.
Pour vous, festival, vous avez l'impression d'être dans des conditions de travail plus difficiles qu'il y a quelques années ou vous avez l'impression que les choses se sont... avez l'impression qu'il y a un retrait des pouvoirs publics
enfin... vraiment profond, c'est-à-dire que pour le ministère de la Culture, on n'entend pas parler de la ministre. Il n'y a plus de crédit pour le ministère de la Culture, par exemple. C'est vraiment navrant quand on veut créer des œuvres, quand on veut faire justement des projets musicaux ambitieux. Ben on est livré à nous-mêmes. Heureusement, il y a encore les organismes musicaux comme la DAMI, la SPEDIDAM, Musique Nouvelle en Liberté qui nous aident. Sans eux, on serait tout seul. Ensuite, il y a la décentralisation. On a un effet boomerang vraiment très fort.
L'effet boomerang, il devrait rapprocher les crédits de votre structure.
Non, mais vraiment, je pense que les financements de la musique sont en crise et que justement, là, en ce moment, il faut militer, mais il y a les élections en 2012 et on n'a pas l'impression que ce soit un sujet majeur, la culture et notamment la musique dans les programmes présidentiels. Et ça se ressent jusqu'à nous. Du coup, les crédits des administrations sont en baisse. Mais après, il y a la région Limousin qui nous aide généreusement, mais c'est vraiment un des seuls pouvoirs publics à nous aider bien. Et puis, il y a le mécénat. Malheureusement, le mécénat, on a vu aussi que les entreprises étaient moins enclines à nous aider. Heureusement, il y en a encore qui le font, mais non, c'est pas facile. Mais après, il ne faut pas se plaindre, on y arrive très bien, et puis on trouve des partenaires pour le faire, et puis il faut de l'énergie, et on arrive à tout. Mais
Ça fait combien d'années que vous occupez de ce festival ?
En fait, pour la structure qui porte le festival, ça fait depuis 2003.
2003, donc vous avez quelques années déjà de route, et vous voyez donc cette situation qui ne se facilite pas.
Qui ne se facilite pas, voilà. On ne peut pas dire que c'est plus difficile, mais ça ne se facilite pas. Mais je pense, tout le monde est unanime pour dire en plus que pour monter un festival, il faut 10 ans. Là, du coup, on en est à 7 ans.
Courage. Courage. Parlons un peu des disques que vous avez donc produits, Le Maître et l'Élève. Quelle est l'idée, en fait ?
L'idée, c'est on s'était posé la question en disant comment on pouvait soutenir des jeunes musiciens. Et les jeunes musiciens, ils ont besoin de jouer avec des artistes connus, de jouer dans des salles prestigieuses et d'enregistrer un disque. Et du coup, c'est une opération un petit peu 3 en 1 avec tous les ans, je vous ai dit, on demande à un artiste d'inviter deux jeunes et on fait un disque qui est enregistré justement à Laborie, vraiment dans des conditions professionnelles avec plusieurs ingénieurs du son dans un studio d'enregistrement.
On fait tout. Donc le but, c'est une sorte de parrainage en fait.
Oui, c'est une parrainage.
Deux jeunes artistes parrainés par un artiste... déjà établi.
Et puis après, il y a un côté pédagogique. Le but aussi, c'est que, toujours dans le but de conquérir un jeune public, c'est que le jeune public, par exemple, un jeune de 12 ans, 15 ans, il voit sur scène quelqu'un qui a son âge, qui enregistre un disque, qui joue dans une grande salle. Le but, justement, c'est de susciter ce jeune à jouer de la musique, à venir à des concerts, à aimer la musique classique.
Vous avez une politique particulière vis-à-vis du jeune public ?
Déjà, c'est vraiment leur proposer des concerts où ils se plaisent. Mmh. C'est vraiment ce que j'essaie. Quoi. Dans le choix qu'on fait pour la partie artistique, c'est que des concerts où déjà, nous, on est convaincus. Et surtout, où on puisse se dire qu'un jeune, un non-mélomane, quelqu'un qui va à des concerts toutes les semaines, il trouve le même plaisir.
Est-ce que vous avez déjà ouvert votre réservation cette année ? Est-ce qu'on peut déjà réserver des places ?
Oui, et puis on a essayé de faciliter de faciliter ça. En fait, c'est facile, on peut réserver absolument partout, sur Internet, dans tous les points de vente.
Et alors, est-ce que vous avez déjà une vision, déjà là, avec les premiers retours, de ce qui va marcher ou des concerts qui vont être plus durs à remplir ?
En fait, je ne sais pas si vous allez me croire, mais pour l'instant...
Tout marche.
Après ça, honnêtement, y a pas encore les concerts sont pas complets, mais vraiment ce qui est encourageant, c'est qu'on a vendu des places pour tous les concerts et dans toutes les catégories, parce que justement on parlait de que faire pour les jeunes, on a fait notre système pour faire venir le public, on a découpé les lieux de concert en catégories en faisant des places un peu plus chères pour les gens qui voulaient être tout devant, des places moyennement chères au milieu et des places vraiment pas chères pour que tout le monde puisse venir un petit peu derrière. Et là, on a vu justement que toutes les catégories aussi étaient... on vendait déjà des billets pour toutes ces catégories.
Vous créez la bière 1001 notes pour désaltérer, j'imagine, les spectateurs du festival.
C'est pour désaltérer, mais surtout, en fait, pendant tout le festival, à chaque lieu, nous avons une buvette qui suivra le festival. Et pour nous, c'est important parce que ce sera le lieu de rencontre entre les festivaliers, entre les équipes, avec les artistes. Un moment convivial et ce sera vraiment une buvette qu'on ouvrira du début de l'après-midi jusqu'à la fin de la soirée avec la fameuse bière. Vous savez qu'on a fait un jeu concours. Vous n'avez pas gagné parce que j'avais vu que vous, Yves, vous avez participé. On peut dévoiler là.
Oui, j'ai participé au concours, oui, parce que n'étant pas dans l'équipe participante, je pouvais participer au concours.
Et du coup, on va pouvoir dévoiler le fameux nom de la bière en exclusivité sur Cobuzz.
Oui, oui, très, très. Quoi qu'il faut la consommer avec modération, naturellement.
Alors, le nom, ce sera. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce sera l'adoré.
L'adoré. Oh, bah écoutez, oui, c'est bien. C'est de la boire.
Et de l'aimer.
Alors, dépêchez-vous donc de réserver quand même les places qui restent à vendre au Festival 1001 Notes, parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Le Festival 1001 Notes en Limousin, du 17 juillet au 11 août, avec comme invité d'honneur cette année Franz Liszt et des artistes tels que Jean-François Zigel, Chili González, Alexandre Tarot, Lise de la Salle, Vanessa Wagner, Nicolas Kraus, Urs Karpatz. Qui est Urs Karpatz ?
Urs Karpatz, c'est un groupe de musique tzigane avec vraiment beaucoup d'histoires. C'est-à-dire qu'il y a même le leader de ce groupe qui était au début dresseur d'ours. Et c'est vraiment authentique. Chaque concert est unique et ils y mettent une énergie énorme. Et justement, ça souligne aussi toujours notre ami Liszt qui s'est énormément inspiré de la musique tzigane et qui a été énormément marqué par leur rencontre.
Et il croyait qu'elle était hongroise d'ailleurs. Et Baptiste Trottignant, donc parmi les artistes qui sont à l'affiche. Et c'est un festival qui sera également en partenariat avec Cobuzz. Merci beaucoup Albin. Bah. Et sur la page du podcast, sur le site, vous retrouverez absolument toutes les informations vous permettant de réserver vos places.
Merci Yves.
cobuzz.com. Rencontre par Yves Riazel.